Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Bonjour. Alors d'habitude, je dis je suis face à Monsieur X ou Madame Y. Et là, non, je ne suis pas face à Monsieur X ou Madame Y. Je suis au téléphone avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la Terre, carrément au point diamétralement opposé, puisque Sandra Lavorel, qui est une de nos consœurs, mais aussi récemment la médaille d'or du CNRS, est actuellement en Nouvelle-Zélande. Si j'ai bien compris, tu as un lien assez fort avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande ?
Oui, en effet, depuis mon postdoc, donc, qui avait démarré en 1991, j'ai entretenu des relations de recherche extrêmement fructueuses avec initialement l'Australie. Et puis, comme j'ai eu l'occasion d'être en détachement en Nouvelle-Zélande en 2020 et 2021, ces collaborations se poursuivent aujourd'hui. Et j'y vais une fois par an pour continuer à travailler avec mes collègues.
J'ai compris que ton travail de scientifique est un travail d'écologie et que tu essayes d'avoir une approche globale entre les questions de biodiversité, de climat, et de comprendre comment les nombreuses espèces vivantes ou de la nature interagissent entre elles et interagissent également avec les actions de l'humain, et de voir comment ce système complexe réagit en quelque sorte, et savoir comment est-ce qu'on peut gérer ou prévoir ou comprendre l'influence de l'humain sur ce système complexe. Est-ce que c'est un résumé rapide et correct ou pas ?
Tout à fait, donc c'est un bon résumé. Donc il y a effectivement deux versants à ces recherches. Le premier, c'est de comprendre les impacts de ce qu'on appelle le changement global, c'est-à-dire que ça va être plusieurs changements qui sont en interaction entre eux. Donc en particulier le changement climatique et les changements d'usage des sols, sur les écosystèmes, donc sur les espèces qu'on y trouve, mais aussi sur le fonctionnement de ces écosystèmes, donc par exemple le recyclage du carbone, de l'azote ou de l'eau, et de pouvoir ensuite traduire ces impacts sur les écosystèmes en impact pour les humains.
Alors dis-moi, est-ce qu'il y a une musique qui peut illustrer l'écologie ?
Ah, une musique qui puisse illustrer l'écologie. Il y en a beaucoup pour moi.
Bah, dis-moi celle qui te vient en tête immédiatement.
J'ai pas du tout envie de mettre les quatre saisons de Vivaldi.
Non, non.
C'est l'ascenseur.
le pauvre Vivaldi. Pauvre Vivaldi.
Voilà. Bien que j'adore. Je peux te transmettre, en fait, il y a une musique que j'avais utilisée pour ma cérémonie de médaille d'argent à l'époque, qui est par un musicien népalais, que je trouvais particulièrement appropriée.
Ce qui me semble intéressant, c'est que tout ça est quand même relativement localisé. Tu travailles, par exemple, sur une région relativement petite des Alpes ou des choses comme ça. Et ce n'est pas une vision globalisée sur la planète ?
Oui et non. En fait, les travaux que moi, je développe sont souvent à échelle locale, mais ils sont en fait de portée globale et on a des résultats qui sont globaux de deux façons. La première façon, c'est de multiplier les cas d'études, alors pas faire forcément personnellement, mais au travers de réseaux de collaboration à travers le monde. Donc ça va être, par exemple, quand on travaille sur les montagnes, à travers des régions de montagnes, mais aussi quand on travaille, par exemple, sur des systèmes de prairies, sur des systèmes de prairies qui vont se trouver pas juste en montagne, mais en régions tempérées, méditerranéennes, etc. Et notre travail, c'est aussi, bien sûr, d'avoir des recherches qui sont comparables, donc avec des protocoles qui sont les mêmes entre régions, mais aussi d'en synthétiser les résultats pour obtenir des connaissances qui sont valables à l'échelle globale. Donc ça, c'est une première façon de globaliser. La seconde façon, c'est en fait d'avoir des approches de modélisation qui, elles, vont être à des échelles plus larges. Moi, j'ai souvent travaillé à l'échelle, pas juste régionale, mais aussi européenne, et parfois dans des travaux de modélisation à l'échelle globale.
Est-ce que tu dirais que ton travail, c'est plus comprendre ou prédire ?
C'est les deux, parce que pour moi, déjà, pour prédire, il faut comprendre.
Certes.
Donc, la première mission, c'est de comprendre, d'obtenir des principes qui soient applicables de façon générale. Par exemple, les travaux que nous avons développés sur ce qu'on appelle les caractéristiques fonctionnelles des plantes et des autres organismes, ça, c'était une nouvelle façon, ça continue d'être une nouvelle façon de comprendre le fonctionnement des écosystèmes. Et puis, on a ensuite un débouché, finalement, sur la prédiction, donc notamment en s'appuyant sur des scénarios pour le futur, comme les scénarios climatiques.
Est-ce que tes prédictions, est-ce que ça va jusqu'à des conseils que tu as envie de donner aux politiques ?
Oui, tout à fait. Donc, pour la biodiversité, c'est peut-être moins bien connu que pour le climat avec le GIEC. On a aussi une plateforme internationale onusienne, donc qui s'appelle la Plateforme internationale pour la biodiversité et les services écosystémiques, et dont la mission est, comme pour le GIEC, de synthétiser des connaissances à destination des décideurs. Et donc, on travaille sur des synthèses de données, des synthèses d'articles scientifiques qui permettent de formuler, bien sûr, des résultats de portée globale, mais aussi des messages qui sont spécialement formulés pour les décideurs.
Donne-moi un exemple d'une mesure qui serait contre-intuitive. Du genre, si on fauche dans les prés ou si on ne fauche pas, ça fait le contraire de ce qu'on pourrait imaginer a priori. Alors, en quoi les travaux que tu mènes peuvent mener à des conseils, des conclusions qui ne vont pas dans ce qu'on pourrait imaginer de première abord?
Oui. Ah oui, j'ai un bel exemple en fait qui est issu d'un travail que nous avons mené dans la région grenobloise au sens large, hein, Grenoble et ses massifs. Et en fait, à la demande des acteurs du territoire avec lesquels nous travaillons sur des scénarios pour cette région, nous avions pris comme indicateur de biodiversité le nombre d'espèces. Donc c'est un nombre qui est ultra classique, c'est un indicateur ultra classique, mais qui est justement simplificateur. Et en fait, ça, on a pu le démontrer à travers d'un résultat qui était contre-intuitif, qui était en fait de montrer que les scénarios que nous avions, en fait, conduisaient, par exemple, à des baisses de nombre d'espèces, alors qu'on avait plus de forêts. Et donc, les acteurs s'attendaient à ce qu'on ait plus d'espèces parce qu'on a plus de forêts. Et ça revient à quelque chose qui est finalement lié intrinsèquement à la nature de la biodiversité. Donc, on s'intéressait surtout aux vertébrés, donc la biodiversité en Europe, où en fait, il se trouve qu'en Europe et en France en particulier, les plus grands nombres de vertébrés, en particulier d'oiseaux, sont dans les milieux ouverts et pas dans les forêts. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça donne un résultat contre-intuitif qui nous a amené à réfléchir avec les acteurs du territoire à quel indicateur on voulait prendre, puisque la valeur de la biodiversité de la forêt, c'est pas le nombre d'espèces, mais c'est des espèces particulières qui sont inféodées à la forêt. Donc il y a par exemple des espèces de chouettes ou des espèces d'insectes qui sont inféodées à des forêts en bon état de conservation. Donc ce n'est pas le nombre qui comptait finalement.
Il y a quelque chose qui m'intéresse aussi dans ton travail, c'est que je vois que tu emploies souvent le mot « science participative », qui est quelque chose de presque, on peut dire, nouveau dans la science, hein, et je trouve ça extraordinaire. Est-ce que je comprends bien que ça veut dire que, pour tes travaux, tu as besoin de relever des données, de faire des expériences qui ne sont pas forcément du rôle du scientifique, mais que des volontaires, des gens intéressés par ces questions peuvent pratiquer eux-mêmes? Ça met en jeu beaucoup de monde. Est-ce que j'ai bien compris ce que ça veut dire « science participative » dans ton vocabulaire?
Alors nous dans mes travaux, il n'y a pas de science participative au sens de, enfin pas encore, donc je vais venir après, de récolte de données par les citoyens ou par des non-professionnels, on va dire. Par contre, ce sont des travaux qui font intervenir donc des participants, donc que ce soit des élus, des responsables de différentes filières économiques par exemple, ou de simples citoyens, dans des processus donc de participation au sens de construction de la connaissance avec nous, par exemple, au travers d'ateliers. Donc, je vais donner un exemple très concret. Quand on travaille sur des scénarios pour le futur des territoires, on va d'abord commencer par demander aux gens quelles sont, par exemple, les valeurs qu'ils souhaiteraient conserver pour l'avenir, des choses qu'ils souhaiteraient améliorer. Et on va travailler en fait avec eux à partir de données scientifiques sur, par exemple, comment arriver à un futur souhaitable. Donc,
tu leur demandes de fabriquer le thermomètre. C'est eux qui vont choisir qu'est-ce qu'ils veulent garder ou ce vers quoi ils veulent aller.
Voilà. Mm-hmm. Voilà. Et même donc, dans les travaux que nous développons le plus récemment, en fait, nous travaillons même avec eux sur justement quels sont les indicateurs qui ont un sens. Alors, nous, on va avoir des indicateurs scientifiques, mais quels vont être les indicateurs qui vont avoir un sens pour eux, donc au niveau écologique, économique et social. Et ça, c'est très intéressant parce que justement, là, il y a des surprises où parfois, il y a des paramètres auxquels nous n'avions pas pensé, qui font complètement sens scientifiquement et qui nous sont suggérés par les participants.
Mais si je te donne une question qui n'est peut-être pas politiquement correcte, après tout, c'est peut-être pas eux qui ont raison qu'est-ce qu'il faut préserver, ce vers quoi il faut aller, peut-être
Oui, alors in fine, c'est une voie parmi les autres.
Oui.
Mais l'intérêt de ces travaux, c'est que nous prenons en compte ces voies. Et même par certaines approches, nous pouvons aussi comparer en fait, quelle est l'évaluation d'un scénario donné selon le poids qu'on donne à différentes voies. Donc, par exemple, sur le territoire grenoblois toujours, nous avons comparé des scénarios avec une interprétation plutôt privilégiant la biodiversité, une interprétation qui privilégierait ce qu'on appellerait un développement durable, donc avec une emphase sur l'économie aussi, et une autre interprétation qui favorisait, en fait, ce qui concernait l'adaptation au changement climatique. Donc ça, on peut tout à fait le prendre en compte.
Mais si tu rencontres des gens, tu leur demandes qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir, et qu'ils te répondent, moi, ce que je veux, c'est que je puisse vivre suffisamment bien avec ma famille, et je veux gagner suffisamment d'argent pour aider ma famille convenablement, avoir ma petite maison dans mon coin. Est-ce que c'est des choses que tu envisages comme étant des valeurs que les gens veulent partager ?
Bien sûr. Alors donc, notre travail, ça va être ensuite d'évaluer ce que ça veut dire, ces valeurs. Et on va pouvoir présenter des chiffres. Par exemple, actuellement, on parle beaucoup d'artificialisation des sols. Si les gens veulent avoir des maisons individuelles, par exemple, on peut développer, on développe des scénarios d'usage des sols. Et on montre ensuite ce que ça veut dire comme emprise sur ce territoire, comme impact sur la biodiversité, sur les écosystèmes. Surtout, ce qu'on montre, c'est qu'est-ce qu'en retour on va dégrader pour les gens eux-mêmes, pour la qualité de leur vie, par exemple perte de pollinisateurs, pollution azotée ou perte éventuelle de valeur, par exemple pour les activités récréatives où on apprécie de beaux paysages.
Alors, j'ai une question à te poser, puisque la science que tu pratiques, elle est en contact direct avec des questions de société qui nous concernent tous. Et hélas, nous vivons, on peut le constater, dans un monde dans lequel les valeurs scientifiques et les valeurs, plus généralement les valeurs rationnelles, deviennent de moins en moins fréquentes. Comment tu peux gérer ce monde de l'émotion qui nous entoure et qui n'est pas nécessairement rationnel ?
Oui, alors j'aurais des réponses seulement partielles à ça, parce que c'est une question qu'on se pose tous et qui est très difficile. Bon, la première chose dont j'ai déjà parlé, c'est quand même d'essayer d'aller à la rencontre des gens, avec nous, des éléments rationnels, tout en les écoutant. Donc essayer de comprendre leur point de vue. Et ça, c'est le travail rapproché par des ateliers, par des entretiens, par passer du temps en fait avec les gens, des travaux à long terme sur des territoires, qui nous aident finalement à avoir une relation de confiance avec les gens. Alors, on ne va pas changer leurs valeurs profondes. Par contre, là où nous sommes, je pense, complètement mal armés, c'est qu'il y a des médias par lesquels passe ce que nous, on va appeler la désinformation et contre lesquels nous n'avons pas de pouvoir. Et c'est une vraie question actuellement. Alors, ce que je voulais aussi dire, en fait, on m'a questionné très, très récemment sur ce que je pensais, d'ailleurs c'est une ministre hein, qui m'a questionné, sur ce que je pensais du scepticisme par rapport au changement climatique, que je lui ai répondu, et qui était une réponse un petit peu de biais quand même, c'est que, de façon intéressante, moi, les territoires dans lesquels je travaille, où les gens constatent chaque jour le changement climatique, bien du scepticisme, je n'en ai pas rencontré. Et donc, ce que je me demande, si une des premières choses, c'est la fracture entre les gens qui habitent notamment en ville et la nature, qui conduit finalement à accepter des positions qui vont à l'encontre de tout ce qu'on peut même observer, même en tant que simple citoyen.
C'est peut-être aussi un scepticisme transmis par les médias également.
Voilà, c'est ça, exactement. Et ce que je me demande, c'est si en faisant encore plus d'efforts pour approcher les gens donc de l'évidence, hein, au sens scientifique, de leur faire observer ce qui se passe, on n'aurait pas un levier. Et je me disais récemment que finalement, en tant que scientifique, nous faisons beaucoup d'efforts à tous les niveaux. Moi, en ce qui me concerne, notamment à l'attention des décideurs. Mais je pense que ceux qui font des efforts, notamment à tous les niveaux d'éducation, doivent vraiment être encouragés. Et je pensais très spécifiquement au plus petit niveau, à l'échelle de l'école primaire. On devrait avoir des programmes renforcés. Et c'est par la sensibilisation, je pense, des citoyens, par une vraie compréhension, pas juste du blabla, comme il se dit pour le climat, qu'on va pouvoir agir.
Mais comme tu le sais, peut-être en amont de cette question, il y a d'abord la formation des maîtres.
Exactement, c'est à tous les niveaux, c'est pour ça que je dis ça. Voilà. Et je me disais la formation des instituteurs, très spécifiquement.
Bien sûr.
J'y pensais récemment.
Donc tu sais, l'Académie des sciences promeut depuis très longtemps la main à la pâte qui s'occupe de la formation.
Exactement.
Et la main à la pâte a une structure parallèle qui s'appelle OCE, tu connais probablement, Office for Climate Education.
Oui.
Qui a un caractère international également, qui va un peu dans ce sens avec ses petits moyens. Mais bien sûr, c'est une bonne idée.
Voilà.
J'ai encore une question à te poser. Quand tu parles beaucoup des gens, j'aime beaucoup cette expression, est-ce que les gens sont bien sûr pas les mêmes dans les Alpes et à Paris, mais ils sont encore plus différents que s'ils sont africains ou indiens? Est-ce que tu as des contacts avec des gens qui sont des Indiens ou des Africains?
Alors moi, j'ai des collaborations avec des collègues qui travaillent dans différents pays. Alors, en l'occurrence, un petit peu en Afrique, pas beaucoup en Inde, un petit peu au Népal, pour citer pas loin de l'Inde, beaucoup en Amérique du Sud, par exemple. Donc, ce qui est particulièrement important dans ces pays-là, c'est effectivement de prendre en compte les problématiques qu'ils vont avoir, notamment quand on parle de développement, c'est une autre question. Et puis, ce qui nous intéresse particulièrement, nous, les chercheurs qui travaillons sur les questions de diversité, ce sont aussi les populations indigènes. Et ça, par exemple, même en Nouvelle-Zélande, donc où je suis actuellement, il y a une prise en compte de plus en plus forte des voix d'autres cultures, en fait, dans les travaux de recherche, et d'essayer de comprendre, en fait, cette diversité de points de vue, y compris des points de vue qui ont été mis de côté historiquement.
La Nouvelle-Zélande est plutôt un modèle en termes de biodiversité, non?
Alors, la Nouvelle-Zélande est un modèle en termes de perte de biodiversité, malheureusement.
D'accord, ils partent de...
Ah oui, tout à fait.
Ils partent de très haut, oui. Mais ils descendent très vite, c'est ça?
Alors, ils sont partis très haut avant l'arrivée des Européens. La Nouvelle-Zélande, ce sont deux îles, hein, c'est un système insulaire. Donc, c'est un système qui appauvrit en biodiversité à la base, en nombre d'espèces. Par contre, on va avoir un système qui n'est pas appauvri, mais au contraire enrichi, entre guillemets, en termes de spécificité. Donc, sur les îles, on a des espèces qui sont très, très particulières aux îles, à une île donnée, par dérive génétique, par isolement. Et donc, la conséquence de ça, c'est que quand on arrive avec des perturbations qui n'étaient pas là, par exemple l'exploitation agricole, l'introduction de prédateurs. Il faut savoir que la Nouvelle-Zélande n'avait, avant l'arrivée des Européens, quasiment aucun mammifère, quelques chauves-souris et pas grand-chose d'autre. Eh bien, l'arrivée de prédateurs, en fait, a complètement exterminé un nombre très significatif d'espèces, notamment d'oiseaux. Et pour les plantes, c'est la même chose.
Et on n'a pas créé de nouvelles?
On a apporté beaucoup de nouvelles. Donc, ce sont des espèces exotiques. Donc là, avec des comportements invasifs pour beaucoup d'entre elles. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on a comme paysage en termes de biodiversité en Nouvelle-Zélande. La biodiversité en Nouvelle-Zélande, elle est bien protégée dans un réseau de parcs nationaux notamment, et puis différentes aires protégées. En revanche, dans les espaces agricoles en particulier, on a deux très forts impacts sur la biodiversité. Donc qu'on essaye de restaurer un petit peu actuellement, notamment avec la première étape, réintroduction d'arbres dans le paysage agricole. Et en fait, c'est là-dessus que je travaille en ce moment avec mes collègues.
Tu es, on peut te classifier comme biologiste.
Oui,
est-ce que tu as le sentiment que ta sous-discipline de la biologie a la place qu'elle mérite au sein de la biologie, ou est-ce que, comment dire, les biologistes moléculaires n'ont pas un peu trop de pouvoir?
Ah, ça c'est une question intéressante. Alors effectivement, nous, on est un petit peu les petits derniers, aussi en termes historiques et puis aussi en effectif, hein, globalement. Alors la première chose, c'est que oui, effectivement, il serait souhaitable que l'écologie fonctionnelle, hein, qui est le domaine auquel j'appartiens, soit mieux reconnu. Mais je dirais qu'en fait, nous avons quand même tout de même des alliances qui se créent, puisque en écologie fonctionnelle, nous utilisons de plus en plus des outils moléculaires. Et donc, je pense que c'est aussi par ce type d'alliance, entre guillemets, qu'on peut progresser. Mais ça demande que la reconnaissance, elle soit dans les deux sens.
Merci. Bon, bah, écoute, je te souhaite une bonne journée. Profite bien, il doit faire beau là-bas. Et pour conclure, le musicien népalais que vous avez entendu s'appelle Anil Shahi et il interprétait un morceau intitulé Ragmani.
Merci, à très bientôt. Au revoir.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.